Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir Jean-Claude Carrière, nous venons à la seconde de faire le point sur nos relations et nous avons constaté que je vous ai interrogé pour la dernière fois, pour la fois précédente, en 1988. Donc, ça ne nous rajeunit ni l'un ni l'autre, mais
c'était hier.
Les gens, j'en garde un bon souvenir. Alors. Voilà. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de vous présenter, parce que, alors, si je commence à dire, Jean-Claude Carrière est adaptateur, scénariste, écrivain, et il a même été acteur. Si je me mets à citer le nombre considérable de films dont vous avez écrit le scénario, les pièces de théâtre que vous avez adaptées, les ouvrages que vous avez écrits sous votre nom, même parfois sous des pseudonymes, je crois qu'il y a eu des...
Oui, mais ils n'ont pas été révélés. Alors,
non, ils n'ont pas été révélés, donc bon. On va passer, ça, on va passer la soirée à ça. Cela dit, peut-être qu'on pourra quand même, après avoir parlé de ce qui nous réunit ce soir, peut-être qu'on pourra quand même revenir un peu sur cette mirobolante, Jérôme Garcin vient d'écrire un livre, L'écuyer mirobolant, sur cette mirobolante carrière qui a été la vôtre, qui est la vôtre, puisque vous continuez naturellement à produire. Mais nous allons commencer par parler de l'objet de cette soirée, c'est-à-dire...
Par un échec.
Bah, oui,
l'échec de mon chèque.
Un chèque, oui. C'est vrai que c'est un échec, finalement.
Ce chèque que je n'ai pas reçu.
Alors, mon chèque, se présente comme un... Mon chèque se présente... D'abord, il faut peut-être dire, il faut peut-être signaler que la couverture propose un dessin du Pierre Etex.
J'aime
et
beaucoup,
que Pierre Etex, il est tout à fait au début de votre carrière.
C'est avec lui que c'est grâce à lui que j'ai poussé ma première porte dans le monde du cinéma. J'étais étudiant, j'avais 24 ans ou 25 ans. Il était, lui, assistant de Jacques Tati sur mon oncle et son dessinateur. Et Robert Laffont, mon éditeur, j'avais publié un roman, avait un contrat avec Jacques Tati pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui de la novélisation, c'est-à-dire le contraire de ce que je devais si souvent faire par la suite, tirer des romans de deux films de Jacques Tati, Les Vacances de Monsieur Hulot et Mon Oncle, qui était en cours de tournage. Et on a fait des essais, j'ai été choisi et Tati m'a reçu, j'étais très impressionné, c'était un très grand personnage à l'époque, et c'est là que j'ai connu Pierre Etex, toujours vivant, toujours épatant, il vient de créer un spectacle dans l'ouest de la France, pas loin d'ici, je crois, et il va bien, et voilà, il vous salue par ma bouche. Oui.
Alors, mon chèque, avec cette jolie couverture de Pierre Etex, c'est un roman. Quelle différence y a-t-il entre l'écriture d'un roman, pour vous, et l'écriture, par exemple, d'un scénario? Car une des choses qui est extraordinairement et immédiatement frappante dans ce roman, c'est qu'il est essentiellement constitué de dialogues. Bien sûr, il y a... D'abord, c'est un roman à la première personne. Il y a un narrateur. Bon, mais de temps en temps, le narrateur monologue, mais en général, ce sont des dialogues.
Beaucoup de dialogues, oui.
Beaucoup,
au début, en tout cas.
Mais dans la première partie, au début. Quelle différence y a-t-il? Est-ce que c'est un travail littéraire et est-ce que c'est un travail de création très différent?
Il y a une différence fondamentale dans la relation entre un roman et un film ou une pièce de théâtre et un public. Quand on écrit un roman, celui-ci par exemple, nous savons que si 5 personnes le lisent parmi vous, elles verront toutes un roman différent. Elles ne s'arrêteront pas à la même page. Elles en sauteront, elles en reliront certaines, etc. Chacune verra le personnage avec des traits qui lui sont familiers. Tandis que, et entre mon écriture et vous, il n'y a que ce livre, c'est-à-dire il n'y a pas de changement technique, même aujourd'hui avec les ordinateurs et les machines que nous avons, nous pouvons nous-mêmes presque fabriquer le livre. Donc il y a un rapport immédiat et chaque lecteur devient en quelque sorte le co-auteur du livre qu'il lit, il y apporte quelque chose. Quand on écrit une pièce de théâtre, et à plus forte raison un scénario, on est au début d'un processus technique de transformation, c'est-à-dire que ce qu'on écrit, un scénario, va devenir un film. Ce n'est pas sous la forme d'un scénario qu'il va se présenter à vous. Et ce scénario doit contenir un film, et ce qui implique de la part du scénariste une connaissance très précise des techniques cinématographiques, c'est-à-dire de ceux que l'on va utiliser pour transformer ce qu'il écrit en film. Et en plus, ce film sera projeté en général, et une pièce de théâtre toujours, devant un public. Et dans une salle de théâtre, il est très difficile de dire aux comédiens « Est-ce que vous pourriez vous arrêter, recommencer la scène, s'il vous plaît ?» ou « Est-ce que vous pourriez aller plus vite ?» On est obligé de suivre le mouvement du public. On est emporté dans un sentiment collectif, on pourrait dire, quand on regarde un film où cette participation du public est très importante. Ça, c'est une différence fondamentale. Il y en a d'autres, mais je crois que celle-là est très... très importante et très ancienne. On me demande souvent pourquoi je fais à la fois des romans, des films, des pièces de théâtre. C'est parce que je suis né, comme je pense la plupart d'entre nous, au XXe siècle. Pas de bébé ici. Et le XXe siècle est le siècle, ne l'oublions pas, le premier siècle dans l'histoire, sans doute, qui est inventé de nouveaux langages. Si nous étions aujourd'hui, il y a 115 ans à peine, nous ne pourrions parler que de théâtre et de livres. Le XXe siècle, à partir du cinéma muet d'abord, puis de l'invention de l'enregistrement du son et des voix, sur cylindre d'abord et puis sur disque, chose absolument inouïe dans l'histoire du monde. Si nous réfléchissons une seconde, nous voyons bien que nous n'avons aucun son du passé, même de l'époque de nos arrière-grands-parents. Nous ne savons pas comment parler les gens du XIXe siècle. C'est tout à fait passionnant. Et le XXe siècle va laisser une masse énorme de souvenirs, non seulement visuels, mais sonores, dont l'enregistrement du son est essentiel dans notre travail. Vient ensuite la radio. Et la radio a une forme fictionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des dramatiques de télévision, il y a des histoires que l'on raconte à la radio. La radio, c'est extraordinaire parce que vous avez uniquement la voix. Il n'y a plus, comme dans le cinéma muet, l'image. Sans voix, il y a ici la voix sans image. Donc ça suppose toute une nouvelle dramaturgie, une utilisation du son et de bien d'autres moyens d'illustrer ce que l'on veut dire. Et puis vient naturellement le cinéma parlant, puis la télévision, puis tout ce qu'on a appelé les nouvelles images, tout le numérique, toutes les images informatiques qui ont rendu possible techniquement des effets spéciaux qui jusque-là étaient très très compliqués à réaliser. Et chacune de ces technique, malgré qu'elle a nu, je dirais, et quelquefois d'une manière réticente, a dû admettre qu'elle avait besoin d'un langage. Toute technique prétend éliminer toutes les autres. C'est le cas en ce moment avec l'e-book qui dit on va éliminer le livre papier. On a connu à la fin des années 20 l'apparition du cinéma qui disait, bon, le cinéma, c'est l'art complet, l'art nouveau, celui que nous attendions depuis Adam et Ève, et qui va éliminer le théâtre, l'opéra, le musical, etc. Il ne restera que le cinéma. On voit bien qu'il n'en est rien, que le cinéma a pris sa place parmi les autres moyens d'expression, sans les éliminer, et même, peut-être en leur donnant, par contraste, plus de force et plus de valeur. Jamais les grandes expositions de peintres n'ont eu autant de succès qu'en ce moment. La vente des livres papier, malgré l'apparition de l'e-book, continue à se développer. Et le cinéma lui-même. Moi, quand j'ai commencé à faire du cinéma au début des années 60, le mot d'ordre, ce que l'on entendait partout, c'était « le cinéma est foutu à cause de la télé ». Parce que la télé envahissait en grande maîtresse tous les foyers de France et de Navarre, et on se disait « le cinéma, il n'en restera rien ». Résultat, l'année dernière, nous avons battu le record historique d'entrée en salle de cinéma. Vous voyez, il faut toujours se méfier des prophètes de bonheur ou de malheur qui viennent nous dire « nous assistons à une révolution incomparable, l'ère numérique commence ». Bon, il n'en est rien. Le e-book, j'en ai un d'ailleurs, prendra sa place parmi des autres formes de communication. Il peut être extrêmement utile pour emporter une documentation, pour réunir 50 volumes en un seul, etc. Mais on ne voit pas du tout pourquoi et comment il éliminerait d'autres formes de lecture. Alors tout cela, j'essaie de répondre à votre question, mais vous imaginez bien que c'est une question extrêmement large et qui supposerait... Par exemple, dans la lecture, je vous donne quand même cet exemple-là parce que c'est un des chevaux de bataille de la critique littéraire au XXe siècle. Jorge Luis Borges, que j'ai eu la joie de bien connaître, Et certains de ses disciples et successeurs, comme Gérard Genette, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, ont insisté sur ce fait que ce que nous lisons, je prends un livre et je le lis, ma lecture est influencée par mes lectures précédentes, par d'autres auteurs. Et Borges a défendu brillamment le paradoxe qui dit qu'il est bien connu que Cervantes a influencé Kafka, il est moins connu mais tout aussi évident que Kafka influence Cervantes. Parce que si je lis Cervantes après avoir lu Kafka, je lui ajouterai à travers moi une note kafkaïenne, inévitablement. C'est ce qui fait que vraiment c'est ce qui est très précieux dans la lecture d'un livre, c'est que nous en faisons non seulement notre lecture personnelle, mais à travers nous, d'autres influences littéraires de ce que nous sommes, de ce que nous avons vécu, transforment, métamorphosent le livre. Ça, c'est tout à fait fascinant à observer. La même chose vaut, dans une moindre mesure, pour le cinéma. Si on a vu tel film avant tel autre, on peut y trouver des échos, des résonances, etc. C'est un jeu extrêmement complexe, tout à fait subtil, absolument passionnant à suivre dans certains cas. Vous savez peut-être que j'ai été le fondateur et j'ai présidé pendant 10 ans l'École nationale de cinéma et de télévision, la FEMIS, et donc j'ai été mêlé à ces problèmes de langage cinématographique de façon extrêmement précise. Et d'ailleurs, dans ce livre, on ne parle que de cinéma, pratiquement de cinéma et d'argent. Hein, voilà. Je vous recède la parole, oui. Pardonnez-moi de l'accaparer, mais non, je suis venu à Bordeaux pour ça.
Vous êtes venu exactement pour ça, et c'est de vous qu'on attend que vous teniez des propos intéressants. Et alors justement...
S'ils ne le sont pas, ils le deviendront voilà. Peut-être.
Ça bouscule un peu la façon dont j'avais prévu les choses à partir de ce que vous venez de dire. Le personnage qui dit « je » dans le livre, c'est un scénariste.
D'aujourd'hui.
D'aujourd'hui, absolument, ça se passe aujourd'hui. L'actualité politique et surtout économique de l'époque est à un certain moment très présente. Et comme vous l'avez dit, on y reviendra. Mais comme vous avez dit, il cherche à récupérer un chèque. Mais c'est un échec finalement. Et donc il est en relation avec un producteur. Je voudrais qu'on parle aussi de tous ces personnages, le producteur. Mais il a une conversation justement avec le producteur sur le cinéma. Et le producteur tient des propos extraordinairement pessimistes sur l'état du cinéma aujourd'hui. Alors peut-être pas, comme vous l'avez dit, sur la fréquentation des salles de cinéma, puisque en effet, on s'est aperçu que la crise n'empêchait les gens ni de lire, ni d'aller au cinéma. Mais sur la pauvreté de la production cinématographique actuelle par rapport à la richesse extraordinaire de ce que fut celle des années 60-70, avec notamment le cinéma italien, par exemple, n'est-ce pas ? Ou bien avec des cinéastes comme Buñuel, avec qui vous avez travaillé près de 20 ans, je crois. Alors, ces propos pessimiste sur, au fond, la mauvaise qualité. Bon, laissons de côté la fréquentation qui ne faiblit pas, mais la mauvaise qualité ou la perte de qualité du cinéma d'aujourd'hui, notamment sous l'influence américaine, est-ce que ce sont des propos qui sont exclusivement imputables à ce producteur qui cherche par tous les moyens à ne pas donner son chèque
C'est une des raisons.
Oui, oui, il y a de ça derrière. Mais est-ce qu'il y a aussi Jean-Claude Carrière dans...
Alors, deux points. Le premier, assez général. On ne connaît pas, dans l'histoire du monde, en tout cas je ne connais pas, une culture, une civilisation qui ait été satisfaite de ses auteurs. À aucun moment. Ça n'existe pas. Par exemple, à l'époque élisabéthaine, du théâtre élisabéthain en Angleterre, à l'époque de Shakespeare, de Marlowe et des autres, les critiques et journalistes anglais disaient que le grand théâtre était en France et qu'en Angleterre, il n'y avait rien. Et ainsi de suite. Dans toute l'histoire du monde, on trouve toujours que la vérité est ailleurs. La vérité et la beauté sont ailleurs. Et ça s'explique, je crois. On ne peut pas imaginer qu'une société, à un moment donné, se reconnaisse entièrement dans les auteurs qu'elle a produits, qu'elle a suscités, qu'elle a donné à naître. Mais c'est ainsi. Et il en était, à l'époque de la Nouvelle Vague, c'était pareil. À l'époque de ce qu'on appelle le grand cinéma classique français, c'était pareil. Il en est de même aujourd'hui en ce qui concerne le cinéma français. Il est commun de dire le cinéma français ne vaut rien. Bon, ce qui est totalement faux à l'échelle du temps. On fait en France 130 à 140 films par an. Il y en a deux ou trois qui sont bien. C'est la proportion traditionnelle. Et c'est déjà pas mal si ça se continue. Il y en a deux ou trois qui sont bien, 20 qui sont pas mal, 30 qui récupèrent leur argent, le reste qui est rapidement oublié. C'est normal. C'était la même chose dans le théâtre du 19e siècle. Pour vous donner un exemple, un jour avec un copain, on a fait le calcul sur les pièces de théâtre créées en France au 19e siècle, pendant 100 ans. Plus de 8000, c'est-à-dire à peu près 80 par an, un peu plus, 8900, quelque chose comme ça. Et on s'est dit combien de ces pièces sont encore jouées aujourd'hui. Alors sur 8500, il y en a 41 qui sont encore jouées. Tout le reste est passé à la grande trappe de l'oubli. Des auteurs très célèbres comme Paul Hervieux, Georges de Portoriche, Émile Augier, tout cela sont totalement balayés. Il reste d'un siècle d'écriture dramatique, trois chefs-d'œuvre universels qui sont connus partout. La Dame aux Camélias, Cyrano de Bergerac et Uburoy, dans des genres très très différents. Il reste ces trois-là. Il reste trois ou quatre pièces de Musset, les Caprices de Marianne qu'on joue de temps en temps, cinq ou six Hugo. Il reste, on ne joue plus Vigny, on ne joue plus. Il reste une pièce d'Henri Beck, les Corbeaux. Il reste une pièce d'Octave Mirbeau, je crois encore créée au 19e, Feydeau, c'est le 20e. Et le grand auteur du 19e, c'est-à-dire sur 41 pièces, il y en a plus de 20 qui sont de la biche. C'est la biche que l'on joue toujours. On n'aurait jamais pensé ça. Il y a 150 ans, Scribe, qui a écrit des centaines de comédies, est tombé, tout ça est balayé. Donc il faut que, très modestement, nous-mêmes, nous nous rendions compte de cela, que dans ce que nous écrivons, personne ne peut dire ce qui va rester. Vous voyez, c'est la première chose qu'il faut se dire. Et la seconde, c'est, toujours pour répondre à votre question, c'est que j'ai mis en scène un personnage, je dis « je », qui a 30 ans aujourd'hui, ce qui, hélas, n'est plus mon cas, mais qui se trouve au début de sa vie, comme moi, et devant un choix. Est-ce que je suis une carrière universitaire, je peux être professeur, ce qui était mon cas, à l'âge de... Moi, j'ai commencé à écrire pour le cinéma à 29-30 ans, parce que j'avais de longues études supérieures et puis 2 ans et demi de guerre d'Algérie à l'époque, qui évidemment retardait le début dans la vie active. Et là, on se trouve devant un choix terrible, parce que est-ce que j'ai en moi les qualités nécessaires pour vivre de ma plume, aujourd'hui de mon clavier, on dirait. Est-ce que je porte en moi assez d'idées, assez de richesse, assez d'énergie au travail, assez de résistance aux rébuffades inévitables et aux échecs qui vont suivre pour me lancer dans ce domaine-là? C'est tout à fait, c'est une décision qu'il doit prendre lui. Moi, je l'ai prise à l'époque, malgré ce que je vous disais, malgré la menace, tout le monde vous disait, maintenant c'est la télévision qui va tout devenir la maîtresse du monde, et le cinéma perdait 50% de son audience à l'époque. Oui. Donc c'est pour ça que je me suis mis à la place aujourd'hui de ce que j'étais il y a 40 ans. Voilà, c'est un peu ça le principe du livre. Les circonstances sont différentes, mais pas tellement. Naturellement, ce qui a changé, et vous le disiez très justement, c'est, on peut dire, la géographie du cinéma. Ça, c'est très intéressant. Notre génération a grandi avec un amour passionné du cinéma italien, qui pour nous était le premier du monde, et les coproductions franco-italiennes étaient ce qu'il y avait de... On allait chaque mois voir notre nouveau Fellini, Antonioni, etc., Visconti. Francesco Rosi, Visconti, moi je les ai tous connus, bien entendu, et Antonioni, je l'ai suivi jusqu'à encore quelques semaines avant sa mort. C'était pour nous une vraie joie de recevoir ces films, et ça m'est arrivé aussi quelquefois d'y participer. Bon, tout à coup, le cinéma italien a disparu, dû à M. Berlusconi, qu'il en soit ici blâmé, qui a interdit toute coproduction, enfin, c'est pour des raisons techniques, interdiction des coproductions entre ces chaînes de télévision et le cinéma, etc. Donc il a disparu du jour au lendemain. Il reste encore quelques résurgences. Mais au même moment où nous commencions à douter, nous, génération de la nouvelle vague, moi je suis, j'ai un an de moins que Godard, j'ai l'âge de Truffaut, je suis absolument de cette génération-là, et où nous commencions à douter de la valeur que nous avions mise dans le cinéma comme moyen d'expression, À ce moment-là, tout à coup, on a vu arriver du reste du monde, de pays complètement inattendus, comme l'Iran, par exemple. Des films magnifiques qui ont commencé à rafler, Kiarostami, Naroubi et d'autres, qui ont commencé à rafler tous les prix dans les festivals, de Corée, de Taïwan, de Hong Kong, maintenant du Mexique. Hein, pensez à Del Toro, pensez à Babel, par exemple, de Iñárritu, pensez au cinéma argentin, israélien, à l'heure actuelle, de pays qui, jusque-là, de la Turquie, ne nous avaient rien apporté dans l'histoire. Nous pensions que le cinéma était le privilège des États-Unis, de la France, de l'Italie, à la rigueur de quelques pays nordiques, de la Russie peut-être, et puis ça se limitait à ça. Non. Alors que le cinéma s'effaçait brutalement en Italie, subsister en France grâce, il faut le dire, à une politique d'aide très, très habile et très, très bien installée. Ailleurs, il surgissait, comme vous savez, comme ces feux de brousse qu'on essaie d'éteindre là, qui ressurgissent là. Alors, non, le cinéma est très vivace aujourd'hui. J'ai vu, l'un des derniers films que j'ai vu est Lebanon, qui est un film israélien, qui est très impressionnant et qui même, techniquement, est une prouesse extraordinaire, puisque tout le film est filmé de l'intérieur d'un char. Pendant une guerre, on se dit au début, on se dit mais c'est pas possible, comment faire ? Si, à travers le viseur du pilote du char, on voit tout l'extérieur. Le seul plan pris de l'extérieur est le dernier quand le champ qui d'ailleurs fait l'affiche du film, quand le tank s'est égaré au milieu d'un champ de tournesol. Donc même là, pour nous, cinéaste et technicien de cinéma, il y a quelque chose de passionnant de voir comment quelqu'un apporte ce à quoi jamais quelqu'un avait pensé, de filmer une guerre par un tout petit objectif comme ça et de nous la rendre extraordinairement présente, grâce d'ailleurs à une bande sonore étonnante. Est-ce que j'ai assez répondu ou vous voulez que je continue?
Dites-moi. Vous avez très, très bien répondu, mais je vais vous demander d'aller plus loin.
Asticotez-moi.
Oui, je vous asticote. Le cinéma italien, pour l'instant.
Voilà, il y a de temps en temps un film intéressant. Ouais. Il y a encore Bellocchio qui a fait un beau film l'année dernière. Bon, c'est vrai, avec beaucoup de mal et grâce à des coproductions.
Le cinéma espagnol, Almodovar, paraît quand même en bout de course et en panne d'inspiration.
Il n'est pas le seul.
Je prends cet exemple. Le cinéma français, bon, vous dites qu'il y a sans doute de bons films, mais combien sur l'ensemble de la production française ?
Deux ou trois par an, mais c'est la proportion qu'il y a toujours eu. Ce qu'on appelle la grande époque du cinéma français, les années 30, 40, 50, hein, Marcel Carnet, Jean Renoir, etc. C'est 30 films qui nous restent, c'est-à-dire un par an. Hein, n'essayez pas d'en chercher davantage, vous n'en trouverez pas. Faites le compte, si vous voulez, on le fait ensemble. Mmh. Des films de Renoir, de Carnet, Becker, qui encore, vous voyez, de cette grande époque-là.
C'est ce que dit le producteur, oui. Oui. Je constate d'ailleurs que vous n'avez pas nommé dans la grande époque du cinéma le cinéma anglais. Il y a eu quand même l'Osé.
Non, il était question que du cinéma français, là.
Ah non, on a parlé du cinéma italien, etc. Il y a eu à cette époque aussi des gens comme Lozé, le cinéma anglais avait son importance.
Malgré ce qu'en disait Truffaut. Il n'aimait pas le cinéma anglais. La Nouvelle Vague avait des jugements absolument catégoriques comme ça. Il n'y a pas de théâtre français et il n'y a pas de cinéma anglais.
Truffaut était très catégorique.
Oui, absolument.
Donc, un mot quand même de ce jeune scénariste, qui emprunte beaucoup à votre expérience quand vous-même avez débuté. Donc, vous parliez de l'échec du chèque. Il a un producteur qui lui doit un chèque. C'est d'ailleurs le troisième versement d'un scénario qu'il a écrit et le film a été réalisé.
Non, pas encore, mais le scénario a été accepté. Donc il n'a pas de. Et il a un chèque à toucher. Il attend, comme il est d'usage, deux ou trois semaines. Et puis il va voir le producteur qui lui dit, c'est la toute première scène, qui paraît étonné. Je lui dis, mais vous venez pourquoi ? Ben c'est pour quel chèque ? Alors, ça commence comme quel chèque ? Ben, le chèque qui était prévu à la livraison du scénario. Il était prévu un chèque, oui. Mais oui, c'est pas... Et vous ne l'avez pas touché ? Mais non. Et là, la phrase extraordinaire, mais comment ça se fait ? Alors, Jacqueline, alors on l'appelle Jacqueline, qui arrive sur ses talons hauts avec sa petite chienne, etc. Et commence une histoire dont je certifie que tout m'est arrivé, pas en une seule fois, mais tous les éléments qui sont dedans, des excuses extraordinaires quelquefois. On fait que le chiffre en lettres et le chiffre en chiffres ne correspondent pas, etc., sur le chèque, etc. Et même, ça paraît invraisemblable, mais je vous donne ma parole que ça m'est arrivé, j'ai reçu un jour, de la part d'un producteur qui me devait un chèque, j'ai reçu la photocopie de ce chèque sur une feuille de papier blanc, en me disant, vous voyez bien qu'il est fait, votre chèque. Mais il y avait des raisons subtiles qui faisaient qu'on ne pouvait pas me l'envoyer. Et ainsi de suite. Alors, c'est un roman. Je vous avoue que j'ai voulu faire un livre drôle, et d'ailleurs, pas mal de gens qui l'ont lu m'ont dit on a beaucoup ri. Mais on ne rit jamais, vous le savez bien, que d'un malheur, ou que d'une frustration, ou d'une désillusion, de quelque chose. Ce ne sont que les mauvaises surprises qui font rire, les bonnes jamais. Les bonnes font sourire, quelquefois, c'est tout. Donc j'ai voulu faire un livre drôle, et en même temps, je me rendais bien compte que tout cela reposait sur quelque chose de réellement existentiel, qui est la question que se pose ce jeune homme, que j'ai été, à son âge, marié, un enfant, de savoir si est-ce que je continue ou pas, est-ce que j'insiste, est-ce que j'ai en moi les moyens, et je dois dire que sa femme, comme l'avait été la mienne à l'époque, l'aide, et qui croit en lui, le persuade de continuer, et même essaie de l'aider. Là, je me suis amusé dans la seconde partie du livre, alors qu'il cherche une histoire pour faire un film, à voir ce qu'on pourrait appeler les métamorphoses d'une histoire. Vous savez, on cherche une idée, l'idée vient d'un épisode que rencontre Montaigne, votre voisin, et que j'avais trouvé un début formidable d'histoire, et comment cette histoire venue de Montaigne, après différents passages, passant par une banlieue d'aujourd'hui, l'homme devenant une femme, etc., va peut-être se terminer dans la Chine antique. Que ça, c'est tous les chemins qu'une histoire peut prendre. Ça, je vous assure que tout cela est vrai. J'ai assisté à des aventures extraordinaires dans l'art, si on peut dire, de déformer, de transformer une histoire. Et ça, c'est quelque chose que j'aime. Que j'aime assez dans le livre, parce que c'est aussi très, très, très vrai. Et ne croyez pas que ce que je vais vous dire est absolument vrai. Ne croyez pas que je mens. En venant ici, tout à l'heure, dans le train, j'ai reçu un coup de téléphone d'un producteur qui me doit de l'argent depuis 9 semaines. Ça commence quand même, qui me doit un chèque depuis 9 semaines. Et qui m'a dit, ne crois pas que ce soit comme dans ton livre. Allez, nous nous tutoyons, je ne crois pas. Non, je lui ai dit, mais quelle est la différence? Ben, la différence, il m'a dit, et là, c'est une phrase étonnante, parce que vous ne la trouverez pas dans le livre, parce que je ne connaissais pas l'expression. Il m'a dit, nous attendions 2 Swift de l'étranger. Qu'est-ce que c'est? Qui ne sont pas arrivés. Qu'est-ce que c'est qu'un Swift? Vous le savez? Quelqu'un le sait?
Je
n'ai aucune idée de ce que peut être un Swift de l'étranger. Alors, bon, le Swift de l'étranger faisant défaut, bon, mon chèque aussi. Mais il m'a rassuré quand même. Il m'a dit, mais tu sais, tu as priorité. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il en doit d'autres. Ça veut dire qu'il en doit. La grande. Oui, c'est bon, ça arrive à tout le monde et dans tous les métiers. La grande difficulté, par exemple, quand on écrit ce livre, mon chèque, je l'ai fait lire à Olivier Orban et à Jean-Claude Simonel, mes 2 éditeurs chez Plomb, qui l'ont beaucoup aimé, qui m'ont appelé tout de suite, et qui m'ont dit, on te fait un contrat quand tu veux. Alors, faisons un contrat. Quand on écrit un livre, on ne touche pas d'argent. Hein. On touche de l'argent si le livre se vend, mais on peut demander une avance. C'est en général de ça que vivent les auteurs de livres. L'éditeur leur donne une avance calculée en fonction de ce qu'ils estiment de ce que sera la vente du livre. Alors, on en a parlé au téléphone très, très brièvement. Moi, je règle toujours mes affaires très, très vite. Et le jour du contrat, ils m'ont envoyé le contrat. Je l'ai signé, je l'ai renvoyé. J'ai reçu le chèque le lendemain. Ça, ils avaient mis un point d'honneur, cette fois en riant d'ailleurs, à me payer tout de suite. Voilà, c'est pour la petite histoire et peut-être aussi pour dire que nous sommes des littéraires, nous ne sommes pas ces commerçants du cinéma qui les... Non, la grande difficulté d'un scénario, il faut le comprendre, j'essaie de temps en temps, parce que le producteur, qui est un homme tout à fait charmant, séduisant même, extrêmement habile, il a ses raisons. Il a tellement de raisons qu'il arrive pas, à un moment donné, à persuader le scénariste qu'il demande que son bien, qu'il est responsable et coupable. Il le culpabilise. Il lui dit, mais enfin, vous vous rendez compte, regardez dans quel état est Jacqueline, enfin, vous venez ici tous les deux, trois jours à réclamer, mais elle est au bord de la crise de nerfs, enfin, tout le monde ici est tendu à cause de vous. Alors, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment, vraiment vécu, et ce producteur, le problème du producteur est le suivant. Pour monter un film, c'est-à-dire pour trouver les différents groupes financiers, chaînes de télévision, Studio Canal, Pathé, etc., les grandes maisons de distribution, qui vont chacune mettre un peu d'argent dans un film, il faut leur présenter un scénario. Donc, pour trouver de l'argent, il faut un scénario. Mais pour avoir un scénario, il faut de l'argent. Donc, en tout cas, une partie, un peu. Et c'est là où on se trouve un peu en porte-à-faux quand on est un scénariste. On est dans une situation d'entre-deux. Si votre scénario n'aide pas le producteur à trouver l'argent dont il a besoin, tout tombe à l'eau, et l'argent qu'il vous aura donné, si jamais il vous en a donné, sera perdu totalement. Vous voyez, c'est ça, ce qui n'existe pas en littérature, parce que les sommes, évidemment, les sommes à investir dans la fabrication d'un livre sont bien moindres que celles à investir dans la production d'un film. Ça, c'est tout à fait normal. Mais voilà, on se trouve dans cette position-là, et puis j'ai mis dedans, beaucoup d'histoires qui sont arrivées à moi, à des collègues à moi. Je les fais lire à des jeunes scénaristes en leur disant « Méfiez-vous, quand on vous dit ceci, quand on vous dit cela. » Je ne leur ai pas encore parlé du Swift de l'étranger, mais ça ne saurait tarder.
Au fond, il y a quand même dans le livre, vous dites « au début, à la fin ». En fait, il me semble qu'il y a vraiment deux parties assez distinctes. Et la première, qui d'ailleurs se concentre autour d'un petit nombre de personnages, oui, c'est-à-dire le producteur, la secrétaire, et les liens entre le producteur et Jacqueline sont extraordinaires à analyser, le comptable, l'aide comptable, et puis
le narrateur et sa femme.
Et là, alors, on a effectivement une série de péripéties. Vous parliez tout à l'heure du côté drôle. C'est souvent, en effet, hilarant. Mais c'est entre Courteline, bien que ce soit pas la bureaucratie, c'est du Courteline et du Kafka à la fois.
Oui,
c'est exactement entre Courteline et Kafka.
Vous dites bien.
Le côté terrifiant, c'est quand en effet le producteur essaie de le culpabiliser.
Et que lui-même se sent coupable et envisage de changer de métier totalement à un moment donné.
Parce qu'il doit
ce qui m'est arrivé, il doit de l'argent à son marchand de fromage, à son charcutier, enfin à tous les commerçants de la rue à côté, il n'a plus un rond, littéralement. Oui.
Et alors, ces personnages, ils sont intéressants parce qu'ils sont assez ambigus. Peut-être pas le narrateur, peut-être pas le jeune scénariste. Mais le producteur, on se demande. Alors, vous dites, c'est un charmeur, et c'est vrai. Et il a de beaux cheveux, à moitié teints. Mais on ne sait pas quelle est la part de sincérité et la part de rouerie dans son comportement. Quand il passe son temps, il lui demande, mais comment, vous ne levez pas votre chèque, mais comment ça se fait? Alors, il y a une espèce de leitmotiv, c'est que dans chaque conversation, il lui dit, depuis combien de temps nous connaissons?
Oui, ça c'est merveilleux. C'est l'art de détourner la conversation. Vous arrivez pour réclamer votre chèque. Je pensais là à Serge Silberman, que j'ai beaucoup aimé, qui était d'ailleurs un très charmant, un très bon producteur. La première chose qu'il vous dit, Jean-Claude, nous nous connaissons depuis combien de temps? Alors ça, c'est tout à fait inattendu. Voilà. Mais nous nous connaissons depuis 6 ans, 8 ans, tant que ça. Et quel âge a votre fille maintenant? Comment elle va? De détourner immédiatement la conversation. Un autre coup qu'il m'a fait, que je raconte dans le livre, sur j'arrive, décidé à m'asseoir dans son... Alors, très souvent, il n'est pas là, il est parti, etc., sans me prévenir. Décidé à obtenir mon chèque ce jour-là, et il me regarde et il me dit, vous savez, j'ai relu votre scénario. Alors là, on est... Mon Dieu, qu'est-ce qui va me dire, j'ai relu votre scénario? Silence. C'est très, très bon, vous savez. Alors là, bon, et tout à coup, on est plein de reconnaissance pour lui, parce qu'il a... Oui, il y a nous le savons, il y a des choses à revoir, la fin est à changer, le personnage de la femme, c'est pas tout à fait ça, le dialogue est à revoir, mais alors là, tout est à revoir. Mais vous avez fait un travail formidable, formidable, c'est vrai, tout est à revoir, mais et là, on est, tout à coup, on a envie de parler que du scénario. Une autre fois, il attaque le scénariste sur ce qui est un de ses dadas, l'environnement, l'écologie. Pendant tout un déjeuner, Il ne lui parle que de ça, l'interdisant de parler, lui fermant la bouche chaque fois qu'il essaie de parler d'autre chose. Mais...
C'est-à-dire que, quand même, les personnages, en effet, même le producteur, il a quelque chose d'attacheur, quoi. On ne sait pas jusqu'à quel point il est... un pirate pur, comme dit là. Est-ce que c'est un pirate pur, quoi?
Pour parler de Silbermann, c'est une scène que je raconte, mais brièvement, là, un jour. Silbermann était le producteur des films que nous avons fait avec Buñuel, de Charme discret de la bourgeoisie, etc., Le fantôme de la liberté, Journal d'une femme de chambre. Et un jour, je lui dis, un jour où j'avais de l'argent, mais on devait discuter d'un contrat. Et je lui dis, Silbermann, il s'appelait, c'est-à-dire l'homme du silver, de l'argent. Je lui dis, Serge, quel est le secret des affaires? Alors, je l'avais touché au plus profond de son être. Il réfléchit, lui qui parlait beaucoup, il se tait et il me dit, Jean-Claude, il y a une règle qui vaut pour toutes les affaires dans le monde entier. Je lui dis, Serge, s'il vous plaît, dites-moi laquelle. Jean-Claude, écoutez-moi bien. Le premier qui dit un chiffre a perdu. Et tout à coup, je réalise qu'en effet, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Il ne faut pas surtout se garder de prononcer le premier chiffre, qu'il soit bas ou haut. Bon, je lui dis, je vous remercie, Serge. Bon, et là, bon, pour mon prochain scénario avec Buñuel, alors combien vous allez me donner? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Allons tout de suite. Et ainsi de suite, nous voilà embarqués dans un truc qui a duré trois quarts d'heure et au bout desquels j'ai renoncé, j'ai perdu, bien entendu. Il était extraordinairement habile, comme l'est le producteur, pour détourner la conversation. Mais c'est une rouerie, comme on disait autrefois. C'est enroué, magnifique, admirable, quelquefois. Parce que, en fait, il a lui-même aussi, on le comprend peu à peu dans le livre, il a lui-même des problèmes d'argent. Bien qu'il soit obligé de retarder son retour de Los Angeles parce qu'il n'y a plus de place en première. C'est évidemment. C'est Sacha Guitry qui disait, je le cite quelque part, « J'ai connu beaucoup de producteurs ruinés, je n'en ai jamais connu de pauvres.
» C'est sûr qu'ils ne volent pas à la même hauteur.
Vous savez ce qu'on racontait d'un producteur, c'est pas dans le livre, ça, mais je pourrais vous en raconter jusqu'à demain, qui remontait les Champs-Élysées, il s'appelait Sacha Gordine. À l'époque, je ne l'ai pas connu, celui-là. Il remonte les Champs-Élysées, une main se pose sur son épaule, et sans s'arrêter, il dit « Oui, moi aussi, on me doit de l'argent. » Il savait de quoi on lui parlait. Oui. Il y a toute une légende.
Mais si, c'est pas dans le livre.
Peut-être, ça y est. Parce que à un moment donné, pour se venger, le jeune auteur raconte toute une série de. Il y a une légende dorée des producteurs de cinéma. Vous savez, moi, j'en ai connu quelques-uns d'extraordinaires. Celui qui disait, qui était en général d'origine étrangère, il disait, je n'ai que deux mots à vous dire. Impossible. Etc. des choses. Dutch Meister, qui était un homme merveilleux, que j'ai beaucoup aimé, qui disait un jour à Godard, qui lui disait, mais ce que vous me proposez n'est pas normal, n'est pas rationnel, n'est pas cartésien, n'est pas, il lui dit cartésien. Mais qu'est-ce que le public, il en a à faire de Cartès? C'est vrai que le public n'en a rien à faire, il n'y a pas de doute là-dessus. Non, je raconte aussi dans le livre, parce que Dutch Meister, qui était un homme très bon et généreux, que j'aimais beaucoup, qui était un grand producteur de cinéma, qui a été un des premiers à produire aussi pour la télévision. La Franco-London Film, ça s'appelait, il avait ses bureaux sur les Champs-Élysées, c'était magnifique. Une installation technique pour l'époque impressionnante, il coupait tout et il se faisait lire. Parce que le bruit courait qu'il ne savait pas très bien lire. Mais enfin, bon. Et un jour, il nous avait, c'était mon tout premier travail. Pour la télévision, il nous avait demandé à un copain et à moi une adaptation de Robinson Crusoe. L'idée venait donc de lui, en 13 épisodes de 29 minutes, comme ça se faisait à l'époque. Alors, d'abord, il nous avait demandé de faire un plan de ce qui allait se passer par épisode. On travaille vraiment très, très sérieusement pendant les semaines, on fait notre plan, notre projet. On le lui apporte, et il nous donne rendez-vous un jour dans son bureau. Et je vous donne ma parole, c'est une des toutes premières phrases de producteur que j'ai entendues. Je rappelle, l'idée venait de lui. Un gros monsieur comme ça, 7 ou 8 mentons, un gilet, une chaîne, etc. Il me dit, bien, j'ai lu ce qui était faux. On a appris par la suite qu'il avait s'était fait lire. J'ai lu, c'est bien, c'est un bon travail. Mais vous ne trouvez pas que Robinson, il est un peu seul dans l'île? Alors, que voulez-vous répondre à ça? Comment lui mettre une femme? Comment lui mettre quoi? L'idée venait de lui, je précise. On est quelquefois totalement désarçonné par les réflexions qu'ils nous ont faites de gens qui ont eux-mêmes proposé cette histoire-là, quoi.
Celui
qui disait aussi, vous croyez m'avoir, hein, vous croyez m'avoir. Vous avez demandé 4 acteurs pour jouer les 3 mousquetaires. Hein,
Alors, non, justement, dans exactement, dans, oui, là, un florilège. Oui. Dans le livre, donc la seconde partie.
C'est pas le cas de celui-là. Celui-là est un
auteur cultivé. Non. Mais il y a un autre personnage. Au moment où il a des difficultés. Il y a un producteur américain,
oui.
Sam. Alors, c'est pas Sam Goldwyn, il est mort depuis longtemps.
Oui, non, c'était pas lui, non. Mais c'était un producteur américain auquel je pensais qu'il vivait en Angleterre. Oui.
Qui vivait en Angleterre.
Qui avait, qui est à Londres, beaucoup plus âgé, qui a 80 ans, et qui a un grand prestige, car il a coproduit un des James Bond. Donc c'est vraiment, vous voyez... personnage sacré.
Donc, au moment où il a lui-même de grosses difficultés, le producteur, il va voir son copain Sam, et Sam, très généreusement, lui fait un gros chèque. Et puis Sam meurt, et alors là, il y a les deux fils qui contestent.
Oui, qui sont de requins.
Ouais,
oui.
Requins, bon.
Qui veulent récupérer le chèque.
On retrouve le producteur à Paris, avec le scénariste, et avec un des fils de Sam. Et c'est le moment où, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le scénariste a... C'est sa femme, d'ailleurs, je crois, qui a trouvé un passage de
Montaigne.
C'est sa femme, hein.
Ouais. Non, c'est lui-même. C'est ce qui va donner le point de départ de tout ce qui va suivre.
Alors, par parenthèse, ça m'a beaucoup amusé parce que j'ai été conduit à pas mal d'années à participer à un ouvrage collectif sur le vin qui s'appelait qui s'appelait De l'esprit du vin. Et j'avais été chargé du chapitre sur le vin et la littérature. Et je citais ce passage de Montaigne, on le raconte pas, Et puis il est pas convenable.
Bon, si vous avez le temps, je peux vous le raconter. Non, c'est très convenable. Montaigne raconte en un paragraphe que dans l'église d'un village de je ne sais plus, enfin de sa région, un dimanche, au moment où le curé va parler, prendre la parole, il dit. Avant de parler aujourd'hui, je vais donner la parole à madame, disons Garnier, je ne me rappelle plus son nom, qui a quelque chose à vous dire, ce qui est déjà un événement extraordinaire. Si vous êtes dans un film, c'est un début merveilleux. Une femme que tout le monde connaît, qui est une bourgeoise, une femme s'approche et elle prend la parole à la table sainte devant tout le village réuni. Et elle dit, voilà, vous me connaissez, je suis madame Untel, vous savez que mon mari est mort il y a 6 ans, que j'ai 2 enfants, que j'élève de mon mieux. Vous me connaissez tous ici dans le village, tout le monde se connaît. Eh bien, je dois vous dire quelque chose, c'est que je suis enceinte. Voilà. Alors, comment ça s'est passé et qui est le père, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que le mois de quand il faisait très très chaud, je suis allé donner un coup de main au moisson à tel endroit. Je me suis fatigué, j'ai bu du vin. J'ai bu du vin, un peu trop sans doute. Je me suis lourdement endormi. Quelqu'un en a profité de mon sommeil et voilà. Il se trouve que je suis enceinte. Alors je demande à celui qui a fait cela de venir me le dire pour que je puisse donner un père à mon enfant. C'est merveilleux, c'est un début merveilleux pour une histoire. Quoi. C'est vraiment. Il ne raconte que ça, Montaigne.
Alors c'est à partir de ça, en effet, que
d'abord,
le point de départ.
Le producteur ne peut pas la croire. Dites-moi, Jean-Michel, Jean-Michel, ça s'appelle le personnage. Vous connaissez une femme, vous, à qui on a fait l'amour sans qu'elle s'en aperçoive? Et alors, il dit, moi non. Et ma femme non plus, je lui ai demandé. Je lui ai demandé ça. Donc, elle, déjà, l'idée que la femme est à demi consentante, ou qu'elle a vaguement senti quelque chose, ça commence, et puis ça va se terminer peut-être dans la Chine antique, en fait.
Oui, c'est ça.
L'histoire se transforme considérablement.
Toutes sortes de travestissements, de transmutations, etc. Mais moi, je voulais juste revenir à propos de ce florilège sur les producteurs, au passage où. Donc il y a le fils de Sam qui est très intéressé
par l'histoire,
intéressé par l'histoire, etc. Il y a le producteur, il y a le scénariste. Il raconte, alors je ne sais plus à quelle étape il en est, ce qui est devenu.
Ça vient de Montaigne.
Enfin, il dit que ça vient de Montaigne. Et l'autre dit Montaigne. Mais qu'est-ce que la montagne vient faire dans cette histoire?
Which mountain? Oui, tout ça, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, après, le producteur est obligé de quitter la France. On le retrouve en Belgique avec un autre producteur flamand qui a des relations avec la Chine, parce qu'en ce moment, la Chine devient un gros producteur et consommateur de films. C'est vrai ce que je dis, qu'en ce moment même, on construit en Chine 5000 salles de cinéma, ce qui fait évidemment beaucoup rêver les distributeurs européens, et que beaucoup de producteurs français essaient, moi j'en connais un qui habite même à Pékin, essaient de monter des coproductions avec la Chine. Alors pourquoi pas celle-là? Est-ce que cette histoire pourrait se transposer dans la Chine ancienne, il faudrait que ce soit, parce que aujourd'hui il y a pas beaucoup d'églises, et même les temples bouddhistes, est-ce qu'une femme pourrait y prendre la parole? Enfin, tout ça suppose beaucoup d'adaptation. Mais ce que j'aime beaucoup dans le producteur flamand, qui est un producteur cultivé, qui a lu Montaigne.
Il connaît Montaigne.
Et il dit même, ça m'aime beaucoup ça, que Montaigne a été très très bien traduit en flamand, et que c'est plutôt mieux en flamand qu'en français.
Alors, c'est un roman d'éducation, au fond, puisque...
D'initiation, bien sûr. Où on pénètre quand même dans le monde du cinéma.
Oui.
Si je peux te dire un mot, puisque vous prononcez ce mot, j'ai essayé de parler de deux éléments de nos vies qui, pour moi, sont aussi mystérieux l'un que l'autre. Le premier, c'est l'écriture. Rien n'est plus mystérieux quand on demande à un auteur « Où trouvez-vous vos idées ? Comment vous viennent-elles ? Comment faites-vous » Tout auteur est incapable de répondre. Parce que pour certains, ça vient le matin au petit réveil, à d'autres, il faut se creuser la tête longtemps, écrire, à d'autres, ça leur vient comme ça, à d'autres, ça ne vient pas du tout. Hein, c'est bien connu, on a beau se creuser les méninges, comment dire, rien n'en sort. Donc, l'écriture... Quelle forme elle doit prendre aujourd'hui? Si j'ai l'idée d'une histoire, par exemple, est-ce que je dois en faire un roman, un film, une pièce de théâtre, une œuvre de télévision, une œuvre sur Internet, même maintenant? Quelle forme lui donner à ce qui n'est encore qu'une chose vague? L'écriture est véritablement un mystère, et elle a toujours été. Je vous cite à ce propos, en ce moment, j'ai une pièce de théâtre qui commence à Paris, qui s'appelle Audition, avec Jean-Pierre Marien, enfin, et d'autres acteurs. Et je leur racontais ça l'autre jour, car certains acteurs me demandaient des précisions sur certaines scènes et répliques de la pièce pendant la répétition, mise en scène par Bernard Murat. Et je leur racontais ceci qui est vrai. Pirandello, pendant les répétitions d'une de ses pièces, Pirandello est un homme qui n'a été connu qu'à partir de 40 ans. Un homme très bien élevé, très élégant, très poli. Une comédienne vient le voir et lui dit « Mais enfin, maestro, je ne comprends pas. Mon personnage, regardez, à la page 28, dit ça, 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 ça et ça. Et puis, à la page 51, elle dit ça, ça, ça et ça. Comment est-il possible qu'elle soit passée de ça à ça, sa psychologie, ses motivations, ce qu'il lui dit ?» Enfin, ce que disent toujours les comédiens. Hein, c'est-à-dire, comment la progression intérieure de mon personnage. Et Pirandello l'a écouté très attentivement et très poliment, et à la fin lui a dit « Mais pourquoi vous me demandez ça à moi? Moi, je suis l'auteur. » Et c'est une phrase prodigieusement juste. Car l'auteur ne sait jamais. L'auteur, c'était une façon très élégante de lui dire, mais ça, c'est votre boulot. C'est pas le mien, hein. C'est votre travail. Et vous avez un metteur en scène pour vous aider à aller d'un point à un autre. Pour l'auteur, son œuvre, et tous les auteurs l'ont dit, reste un profond mystère. Moi, je sais que dans tout ce que j'écris, il y a des choses qui m'échappent, y compris dans ce livre, qui sont souvent celles que je préfère. Je suis incapable de dire d'où elles viennent, vous voyez. Et le second mystère, le second élément, c'est évidemment l'argent. L'argent, pour moi, reste, comme pour la plupart d'entre vous, j'imagine, un mystère profond. Et si on pense à ce qui s'est passé récemment, on a vu, vous nous avons tous vu, il y a au mois de septembre 2008, des images à la télévision montrant des employés de banque à New York qui fuyaient en courant, traversaient les rues de New York en emportant des ordinateurs, des casiers, etc. C'était la panique totale. Toutes les banques fermaient, faisaient faillite l'une après l'autre. On parlait d'un enchaînement de désastres. 16 mois plus tard, on nous dit que les banques n'ont jamais réalisé des profits aussi énormes que dans cette période. Comment, si ça, ce n'est pas un miracle, si ça, ce n'est pas un mystère profond, mystère théologique, hein, alors où le trouverons-nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans... C'est pour ça que je me dis quelquefois que je vois l'argent comme une créature vivante. C'est une sorte d'énorme pieuvre qui a des tentacules partout, y compris peut-être à la librairie Mola, on ne sait jamais. Et que cette pieuvre a sa vie propre. Elle a ses agents, ses espions, producteurs en étain, etc., qui vont et viennent. Peut-être, comme dans l'histoire que je viens de vous raconter, peut-être se tend-elle des pièges à elle-même. Peut-être se prend-elle une de ses tentacules avec ses propres ventouses. Et ça donne des petites pieuvres. Oui, c'est extraordinaire. Je suis persuadé que l'argent a sa vie propre. Qu'il soit un dieu, personne n'en doute. C'est même peut-être le seul dieu qui nous reste. Vous savez que de ce point de vue, il y a un texte très beau. Il se trouve que c'est la première pièce de Shakespeare que nous avons adaptée avec Peter Brook, dans Timon d'Athènes. Timon d'Athènes, c'est l'histoire d'un homme très riche, un Athénien, très généreux, qui reçoit ses amis fastueusement, qui donne de l'argent à tout le monde. Un beau jour, il est ruiné. Du jour où il est ruiné et où il va demander un petit secours ici ou là, il n'a plus d'amis. C'est fini. Plus personne. Chacun a une excuse. Alors, il se retire dans le désert pour vivre, dit-il, en mangeant des racines. Et là, il creuse la terre pour trouver des racines, et ça, c'est le génie shakespearien, il trouve de l'or. Et ses amis reviennent. Et là, il y a un hymne à l'or. « Ô or, Dieu nouveau, Dieu qui vaincra, qui fera ceci, cela. » Il énumère dans un texte absolument splendide, comme seul Shakespeare peut en écrire, que je ne vais pas me hasarder à vous répéter, il énumère tous les miracles dont l'or est capable. Eh bien, ce texte de Shakespeare est repris et commenté par Karl Marx dans Le Capital. C'est là-dessus qu'il fonde son analyse. Donc, c'est bien la naissance d'un dieu dont Shakespeare et Marx disent qu'il va éliminer tous les autres. S'il est un dieu, il a des adorateurs, il a des grands prêtres, et il a, le producteur en est peut-être un, des apôtres, hein, qui sont chargés de répandre cette religion nouvelle. Si vous lisez les nouvelles économiques et financières de nos jours, à cette lumière-là, Shakespeare, Marx et moi beaucoup plus modestement, on y voit quelque chose de tout à fait intéressant, qui est le remplacement d'une série de croyances que nous appelons spirituelles par un nouveau dieu matériel. Et ce nouveau dieu matériel, comme les dieux auxquels nous croyions dans le passé et que nous avions inventés, ce nouveau dieu à ses adeptes, à ses codes, ses rites, et bientôt, probablement, son dogme et ses conciles. Ces conciles qui sont, d'ailleurs, nous les connaissons, hein. C'est Davos, c'est les grandes réunions des financiers internationaux. Ils sont un peu plus secrets que l'étaient les conciles d'autrefois, mais bientôt, nous en entendrons parler. Donc, c'est de tout ça que j'essaie de parler, c'est de mettre ensemble ces deux mystères, écriture et argent, qui ont constitué évidemment le nœud secret de ma vie, enfin quelque chose autour duquel j'ai tourné de différentes façons, et que j'ai essayé pour une fois de rendre clair, accessible et si possible divertissant.
Oui, et ça l'est, ça l'est. Peut-être une dernière question, après on demandera...
Il n'y a jamais de dernière question.
Bon, pas de dernière question, alors...
Il n'y a surtout pas de dernière réponse.
Vous avez rappelé donc qu'une pièce de vous, Audition, oui. elle est commencée à Paris. Je crois que j'ai vu d'ailleurs Jean-Pierre Marielle à la télévision hier. Tout à l'heure, c'était tout à fait au début de notre conversation, vous avez dit quelle différence il pouvait y avoir entre écrire un roman, écrire un scénario, écrire une pièce de théâtre, etc. Et de toutes ces activités créatrices et littéraires, quelle est celle qui vous donne le plus de satisfaction? Quelle est celle qui est la plus gratifiante? Et pas, je ne parle pas d'argent, là.
Non, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Vous doutez bien qu'il n'y a pas une réponse, je ne peux pas vous dire, mais je peux dire que la plus difficile est l'écriture cinématographique. Aucun doute là-dessus, parce qu'elle suppose des connaissances techniques. Il faut absolument, quand je parle avec un producteur, avec un metteur en scène, si vous êtes en face de moi, et si vous me parlez technique, il faut que je puisse répondre au même niveau que vous. Donc, sinon, un scénariste ne sert à rien s'il ne sait pas comment ce qu'il écrit va devenir un film. Donc, il me semble que c'est l'écriture la plus difficile, d'autant plus qu'elle suppose une grande dose de modestie, parce que ce qu'il écrit sera le film d'un autre. Il travaille à l'œuvre d'un autre, il faut le savoir. J'ai écrit le scénario du dernier film de Michael Haneke, Le Ruban Blanc, et bon, c'est un film de Haneke qu'il a merveilleusement fait d'ailleurs, hein, mais je suis très heureux d'y participer, d'ailleurs il m'envoie le présenter dans différents festivals, c'est donc, et nous avons rendez-vous la semaine prochaine éventuellement pour un autre projet, mais il faut savoir ça, c'est que la place du scénariste dans le cinéma est obscure. On connaît très peu les bons scénaristes américains qui ont fait la gloire d'un certain cinéma à la grande époque du cinéma américain. On les connaît très peu. Moi, j'en ai connu quelques-uns. C'était des personnages modestes, effacés, artisanaux, souvent comme ça. Bon, ça, c'est certainement ce qu'il y a de plus difficile. Ce qu'il y a de plus traquant, c'est le théâtre. Ça, je viens de l'éprouver encore là, parce que dans une aventure théâtrale, comme celle que nous vivons et qui, par bonheur, se passe très bien. Maintenant, elle a commencé depuis 10 jours. L'auteur est devant. Au lieu d'être derrière, c'est lui qui est devant, c'est une pièce d'un tel. Et il engage toute la vie d'un théâtre. C'est-à-dire, s'il est un tant soit peu honnête, il se sent responsable de toute la marche d'un énorme bâtiment, le Théâtre Édouard VII, qui est un des plus beaux de Paris. Ça coûte une fortune à entretenir chaque jour. Il y a du personnel, il y a des ouvreuses, il y a des techniciens, il y a des acteurs. Mais on engage 50 ou 60 personnes dans une aventure dont on ne sait rien. Et ce qui fait que vraiment les 2 ou 3 dernières semaines qui précèdent la première sont... Alors, cette fois, ma femme m'a définitivement interdit de faire du théâtre. Elle m'a dit, non, tu fais autant de scénarios, de livres que tu voudras, mais le théâtre, c'est fini. Je ne peux plus, je n'en veux plus. Bon, ça changera peut-être, surtout si la pièce marche bien, ce qu'elle promet. Mais c'est vrai. Alors, le théâtre a cela d'extraordinaire. C'est peut-être de toutes mes activités, celle de laquelle je ne pourrais pas me passer avec l'écriture de livres, c'est que si on y pense bien, et c'est pour ça que je le disais à quelqu'un tout à l'heure, je suis toujours très heureux de trouver en face de moi des lecteurs éventuels, des gens, parce qu'un auteur est absolument seul. La solitude est l'ami et l'ennemi de tout auteur. Il est là, il s'assied, et bon, il faut qu'il écrive. Il n'y a personne pour lui dire, pour lui tenir compagnie, sinon, de temps en temps, ma femme qui m'apporte une tasse de café. Oui. Cette solitude, ce que nous vivons aujourd'hui, et pour moi c'est très précieux, il y a des manières de la briser. Mais au théâtre, on n'est jamais seul. Tous les soirs, il y a un nouveau public qui se renouvelle. C'est la seule activité au monde, si on y songe, avec tous les moyens techniques qui sont mis à notre disposition, qui reste ce qu'elle était il y a 5000 ans. C'est-à-dire la rencontre, un soir, au même endroit, de 2 groupes de personnes vivantes, le public et les acteurs. Ils vivent là en même temps, ils respirent le même air. Ils ont lu les mêmes nouvelles dans la journée, ils ont les mêmes soucis. Ils se rencontrent autour d'une œuvre dont on souhaite qu'elle soit aussi vivante et belle que possible. Mais en plus du plaisir que nous pouvons prendre, quand je vais au théâtre, et j'y vais souvent, que nous pouvons prendre à voir une belle œuvre, il y a le fait que c'est un remède à la solitude. On n'est pas seul, on est entouré, on est dans un cercle qui comprend à la fois les comédiens et le public. Et ça, il n'y a pas d'autre, il n'y a que le spectacle vivant, théâtre, opéra, comédie musicale, danse, tout ce qui, quand nous partageons ensemble l'espace-temps. Voilà, c'est ça qui est absolument, pour moi, irremplaçable. Quoi. Et donc, peut-être, je ne pourrais jamais me passer, quoi qu'en dise ma femme, mais ne lui répétez pas.
On a parlé tout à fait au début de la conversation de Pierre et Tex. Vous avez cité votre collaboration avec Buñuel. Il y a Louis Malle.
Miloš Forman. Nous avons tourné avec Miloš ici pendant 3 semaines à Bordeaux pour Valmont.
J'ai assisté à une partie du tournage.
Mais c'est une belle ville 18e.
Schlendorf, bien sûr.
Tambour. Oui.
C'est vous qui avez écrit l'adaptation du tambour, etc. Bon, de tous ces. Pour le théâtre, alors Peter Brook. De toutes ces collaborations, quelle est celle qui vous a le plus.
Bon, je dis souvent que j'ai 3 maîtres, si vous voulez, dont 2 sont morts. Le premier a été Jacques Tati, parce que c'est le premier qui m'a ouvert une porte et qui m'a appris toute la puissance de l'observation, tout ce que la vie nous apporte. Travailler avec Tati, c'était s'asseoir à la terrasse d'un bistrot et regarder les gens passer, mais les regarder attentivement. Tati m'a donné des leçons de regard. Il m'a appris à regarder. Regardez, vous avez vu le sac de la bonne femme qui arrive là-bas, qui est ouvert. Il y a un chien là-bas. Est-ce que vous croyez pas qu'il pourrait aller pisser dedans? C'était ce genre de utiliser tout ce que l'immense richesse de la vie, tout ce qu'elle peut nous apporter. Je me rappelle le premier jour où je suis allé voir Tati, et c'est peut-être ça qui nous a rapprochés de lui et de Pierre et Tex. Il m'a invité à déjeuner pour que nous ayons bavardé, et il pleuvait ce jour-là. Et en sortant du bureau pour aller au restaurant, je lui ai dit, mais comme une chose tout à fait, pour moi, qui était naturelle, je lui ai dit, c'est drôle, quand il pleut, les voitures ralentissent et les passants accélèrent. Alors, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, vous avez remarqué ça, vous? Non, c'était le premier signe que peut-être il pouvait y avoir. Je l'avais dit tout à fait innocemment, sans penser à quoi que ce soit. Mais par la suite, les textes m'ont dit que ça avait joué un tout petit rôle. Vous voyez. Donc Tati a été vraiment un initiateur, un grand maître pour moi. Et le second est Buñuel, presque pour la raison inverse, mais qui était lui aussi très observateur. Mais Buñuel était un homme d'imagination. Buñuel m'a appris la force illimitée de l'imagination humaine, les prodigieuses dimensions que nous pouvons avoir en nous-mêmes pour inventer, c'est-à-dire pour inventer des choses qui viennent on ne sait d'où, du fameux inconscient. Et pour les surréalistes, c'était évidemment très important. Pour Buñuel, l'imagination était souveraine, elle était innocente, totalement. Il fallait se débarrasser de tout péché d'intention, ce qu'on nous avait appris au catéchisme. Il disait toujours, un bon scénariste doit tous les matins tuer son père, violer sa mère et trahir sa patrie. Sinon, il n'écrira que du sirop, il n'écrira que de la tisane. Voilà, il faut absolument faire confiance à son imagination, inventer. Et puis, mon troisième maître, qui est toujours vivant, fort heureusement, c'est Peter Brook, avec qui j'ai quand même travaillé 34 ans au théâtre, et qui, lui, m'a appris, en ce qui concerne le théâtre, et aussi le cinéma, nous avons fait des films et de la télévision ensemble, une chose absolument essentielle, c'est qu'aucun travail n'est jamais fini. C'est-à-dire que tout est toujours perfectible. Avec Peter, c'est bien simple. On a fait, je crois, 12 ou 14 spectacles ensemble. En général, presque toujours, c'était très très bien reçu, critique magnifique, il n'y a plus une place de libre dans le théâtre, etc. Tout est vendu. Alors, 15 jours après la première, il réunit les acteurs, moi, le technicien, et sa première phrase est toujours, il est très clair que nous avons maintenant un énorme travail à faire. Alors, les gens qui venaient pour être félicités et complimentés, tous les ans, qu'est-ce qu'il veut encore? Et le plus fort, c'est qu'il a raison. Parce que cette flamme des premiers jours, il faut la maintenir. Il faut la rallumer tous les jours. Il faut la renouveler. Il faut l'enrichir. Moi, j'ai vu Peter, dans un de nos spectacles, qui était la conférence des oiseaux, faire répéter à ses acteurs une scène de la conférence des oiseaux le dernier jour, pour la dernière représentation. C'était la dernière le soir. Alors quelqu'un lui a fait remarquer, ah ben, tu répètes encore le dernier jour, mais pourquoi? Et Peter lui a dit cette phrase que je trouve magnifique. Il m'a dit, parce qu'il n'y a aucune raison de priver les spectateurs de ce soir d'un mieux possible. Ça, c'est vraiment c'est ce que j'appelle des maîtres, vous voyez, des gens qui sont, par leur exemple même, non seulement parce qu'ils disent, naturellement, ce sont tous les trois des gens très intelligents et très cultivés, tout ce qu'on voudra, Shakespeare, sans Peter Brook ne serait pas pour moi Shakespeare, vous voyez, il m'a vraiment introduit dans ce monde-là, mais en plus, ils joignent les actes à la parole, c'est-à-dire qu'ils donnent exemple eux-mêmes, quoi. Buñuel n'était jamais satisfait de ce que nous avions avec Louise. Parce que nous avons beaucoup travaillé pendant, oui, vous l'avez dit, 19 ans, en fait. Pas tout le temps, mais enfin, j'ai calculé quand même qu'avec Buñuel, et c'est un cas unique, je pense, nous avons, lui et moi, en tête à tête, sans personne d'autre, mangé plus de 2000 fois, partagé plus de 2000 repas, ce qui est quand même considérable, énorme. On vivait ensemble, dans des lieux écartés, au Mexique, en Espagne, sans amis, sans femmes, enfin, vraiment, tout seul. Et nous avions, pour entraîner notre imagination, qu'il appelait « el lugar sin limites », le lieu sans limites, pris l'habitude, tous les jours, en fin de journée, après une dure journée de travail, 3h le matin, 3h l'après-midi, manger ensemble, continuer à discuter, vers la fin de l'après-midi, on prenait une demi-heure seul, chacun dans notre chambre. Et dans cette demi-heure, nous avions l'obligation chaque jour d'inventer une histoire, qui pouvait être courte, brève, drôle, peu importe, une histoire. Ensuite, on se retrouvait au bar pour l'apéritif, et là, on devait raconter cette histoire, ce qui est un autre exercice déjà, venir inventer, puis raconter. Tout cela n'avait pas de rapport avec le scénario sur lequel nous étions en train de travailler, c'était uniquement pour maintenir l'imagination en alerte, pour l'entraîner. Je disais, l'imagination est un muscle, comme la mémoire, et il faut l'entraîner. Ça, c'est aussi une technique surréaliste du Kandinsky, de toutes les improvisations auxquelles il se livrait. C'est combien de centaines d'histoires ont traversé les bars où nous avons pris et qui se sont évanouies. Je ne sais plus, je les ai toutes oubliées, évidemment, mais certainement contribuaient-elles à maintenir notre cerveau en activité, car les biologistes le disent, les neurobiologistes le disent, nous avons tous un cerveau magnifique, qui est un outil extraordinaire, mais qui a une tendance à la réduction. C'est-à-dire, il a tendance à réduire ses activités et à s'endormir très satisfait. C'est une très jolie idée, très très bien. Et à se rendormir, alors il faut l'asticoter, le réveiller, l'exciter, l'obliger à aller ailleurs. Voilà. Ça, c'était... Alors, vous m'avez demandé, j'ai essayé de vous répondre sur mes 3 maîtres. Il y en a d'autres, bien sûr. Toute personne avec qui je travaille est un maître. Et puis, on peut avoir aussi des maîtres dans la vie qui ne sont pas des maîtres de travail et qui nous donnent des leçons d'existence. Dalai Lama, par exemple.
Ah oui, c'est vrai, vous avez rencontré le Dalai Lama.
Nous avons fait un livre ensemble, avons un projet de film ensemble cette année, et bon, une rencontre avec le Dalai Lama est évidemment, vous vous en doutez, elle est unique en un sens. Je dis, peut-être on peut terminer là-dessus. C'est que bon, bien entendu, on travaille, donc on parle du bouddhisme aujourd'hui, ça suppose un certain nombre de connaissances et de travail. Mais c'est un homme qui est un chef d'État en exil, et qui, ce qui est extraordinaire chez lui, mais vraiment extraordinaire, c'est qu'il ne parle jamais de lui. Jamais de lui. C'est un homme qui ne possède rien. C'est le seul chef d'État au monde qui n'a aucune propriété. Il a 2 ou 3 robes, une vieille paire de mocassins, et puis c'est tout. Donc, à la limite, il serait presque indécent de lui demander des nouvelles de sa santé. Vous voyez ? Il ne parle que de son peuple. Il ne parle que des Tibétains, il ne parle que d'autres choses du monde, de la société, mais jamais de lui. Le premier mot qu'il emploie toujours, quand on commence à parler, c'est « but substantially », en substance. S'il vous plaît, ne perdons pas de temps, allons au fond des choses. Ça, c'est extrêmement, pour moi, important de se débarrasser de tout ce qui peut être inutile dans une conversation. Et l'autre leçon du Dalai Lama et du bouddhisme en général, c'est cette que j'essaie d'appliquer chaque fois que je prends la parole, j'espère que c'était le cas aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver le niveau auquel nous devons parler. C'est-à-dire que, moi, quand je suis allé le voir la première fois, je l'avais rencontré une ou deux fois, mais avec d'autres personnes, mais naturellement, je m'étais préparé. On ne va pas trouver le Dalai Lama pour lui dire « Alors, le bouddhisme, c'est quoi, au fait ?» Non, évidemment pas. Alors, je m'étais préparé pendant au moins 6 mois, mais notre première heure, et je l'ai très bien senti, a été une mise à niveau. Vous voyez, il m'a testé pour savoir où j'en étais. Il savait que j'avais fait le Mahabharata, que j'avais travaillé 11 ans sur l'hindouisme, il avait vu les cassettes, il savait bien que j'avais quelques connaissances. Mais il voulait me tester. Et ce n'est qu'après une heure, un peu plus d'une heure, que nous avons pu faire le chemin ensemble. Ça, c'est très précieux. Il dit, par exemple... J'ai retenu de lui cette phrase que j'ai beaucoup aimée. À question savante, réponse savante. Question naïve, réponse naïve. Si à question savante, réponse naïve, c'est ridicule. Si à question naïve, réponse savante, c'est inutile. Donc ça, c'est la question de se mettre à niveau est quelque chose qui reste une des grandes leçons de ce que j'ai retenu de toutes. Nous avons rencontré 10 ou 12 fois, je pense, depuis 1994.